Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la cinquième et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles. Peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement. Pour vraiment montrer que l'échec, c'est pas juste professionnel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, dernière saison, et j'invite quelqu'un de taille, Catherine Testa. Hello Catherine.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Ça va bien?
Écoute, ça va. Ça va, meuf très binaire, il fait beau dehors, soleil, Catherine contente, voilà.
Parfait, Enzo content aussi. Soleil, Enzo content, parfait. Ouais. Catherine, est-ce que tu peux te présenter du coup pour toutes celles et ceux qui nous écoutent?
Alors bon, bah, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Catherine, je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle l'Optimisme, qui vise à mettre en avant des initiatives positives, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de tous les jours ou dans le monde professionnel, tout simplement. Des gens qui, voilà, essaient de changer quelque chose. En parallèle, je suis auteure de plusieurs livres et je donne pas mal de conférences. Donc, c'est très difficile de se présenter quand on a pas mal de projets en parallèle. On a du mal à s'autodéfinir, quoi.
Je suis assez d'accord. Plus t'as de projets, plus tu te dis merde, c'est quoi le premier que je prends et que je cite et qui est le plus fort. Et tu peux citer du coup les livres. Tu m'as dit que tout à l'heure, t'en avais écrit trois du coup.
Ouais. Alors j'en ai écrit trois, le premier c'est Oser l'optimisme, c'était vraiment les clés de l'optimisme, un livre assez simple en fait pour tous ceux qui, voilà, qui partent d'assez loin, qui se disent là comment je fais, c'est vraiment un petit guide. Le deuxième c'est un peu plus complexe, c'était Oser être soi-même au travail, pour tous ceux qui se questionnent en fait, est-ce que je suis à la bonne place dans le bon job, et moi je trouvais qu'on oubliait en fait cette sorte d'adéquation, enfin dans le milieu pro pour moi c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment, et le troisième livre c'est un peu plus léger, plus subtil on va dire, ça s'appelle Synchronicité, les trois livres sont aux éditions Michel Lafond, et c'est des textes en fait pour se questionner. Il y a beaucoup de tout petits écrits, ça se grignote, on va dire ça comme ça, et ça va résonner. Moi, je crois beaucoup aux histoires de synchronicité, notamment.
Eh bien, trop cool. Ça me fait, je pense, une bonne passe D sur la prochaine question que je pose tout le temps. C'est quoi, pour toi, Catherine, la définition de l'échec?
Je dirais que c'est la frustration. Pour moi, l'échec, c'est la frustration. Et c'est vrai quand on parle d'échec, on parle toujours d'échec de vie, tu sais, de grands changements à un instant T. Pour moi, c'est la frustration de ne pas avoir réussi à faire quelque chose, de s'en vouloir, de ne pas réussir à faire quelque chose, d'avoir eu envie de faire quelque chose et de se dire non, en fait, c'était pas du tout pour moi. Je dirais cette frustration qui vient un peu chafouiner notre ego. Je dirais que c'est ça, l'échec.
Ah, c'est intéressant, j'avais pas eu du coup ce terme frustration, mais c'est vrai que ça le définit bien, ouais. Le seum, pour les plus jeunes qui nous écoutent, le seum.
Ouais, et puis vraiment une frustration de l'ego, peut-être.
Ouais.
Ça vient nous chercher, ça nous dérange, c'est une situation qui est pas agréable. Donc ouais, j'irai mettre en face ce mot, effectivement.
Eh ben écoute, au top Catherine, pareil du coup, on va enchaîner sur la suite. On va parler aujourd'hui justement de plusieurs frustrations qui t'est arrivée aujourd'hui. On va avoir plutôt, c'est la dernière saison, donc on fait ce qu'on veut, voilà, déjà pour commencer. Et puis on s'est dit que on allait avoir plusieurs actes temporels avec Catherine pour marquer justement toutes ces périodes de frustration qui sont arrivées, parce que comme tu disais tout à l'heure, selon les âges, bah forcément du coup les échecs ne sont pas les mêmes et ne sont pas perçus de la même façon. Et donc bah écoute Catherine, je vais te laisser libre cours pour nous raconter quels sont ces quelques échecs à différents moments de ta vie et comment tu les as vécus.
Alors, je vais commencer par un échec qui, en fait, pour moi, a été très formateur et a été, in fine, le point de départ de l'optimisme. Tout à l'heure, avec Enzo, on en parlait, on se disait, en fait, on a les échecs qui correspondent à notre vie, en fait. Et quand j'étais ado, j'étais fan d'un groupe de musique, mais vous savez, la nana qui va en plus au bout des trucs, donc quand elle est fan d'un groupe de musique, elle va au bout du truc. Hein. Donc, j'avais créé un site web sur eux. Ils n'étaient pas du tout connus en France. Hein. Donc, je voyageais dans toute l'Europe en allant chez des gens que je connaissais même pas, en fait, ça a été très très formateur hein, d'être fan d'un groupe de musique. On pourrait se dire c'est vraiment, tu vois, la caricature de celui qui regarde la télé à longueur de temps. Non, moi c'était vraiment une sorte de fanatisme constructif. Et puis j'avais réussi avec deux copines à avoir des places. C'est ce qu'on appelait des meet and greet à l'époque. C'était tu pouvais aller rencontrer en backstage finalement les chanteurs. Donc pour nous c'était la folie. Faut se remettre au fait que j'avais 18, 19 ans à cette époque, donc je trouvais ça incroyable de les rencontrer. Et finalement, les gardes du corps nous ont dit non, il y a que deux personnes qui peuvent rentrer et nous, on était trois. Donc, par esprit de solidarité, on s'est dit non, il y en a aucune des trois qui y va. Et vraiment, c'était un énorme échec parce que, on a les rêves de sa période de vie. Moi, ça faisait 4 ans que j'adorais ce groupe de musique. Donc, c'était l'acmé, le summum de ce qui pouvait me faire plaisir que de les rencontrer à cette époque-là. Et donc, finalement, on n'y a pas été. Pour moi, ça a été une sorte d'énorme échec. On n'a pas réussi. C'est une sorte d'énorme déception. Et en fait, il s'est avéré que quelques mois plus tard, par hasard, un total hasard, je les ai rencontrés. Ils étaient dans le studio dans le sud de la France, à Cotignac, à Miraval, pardon. Et je les ai rencontrés à 40 km des studios dans lesquels ils bossaient par un total hasard un dimanche matin. Et en fait, là, j'ai compris que si je les avais rencontrés 4 mois plus tôt, en fait, j'aurais pas eu la même interaction. En fait, on aurait été dans un cadre un peu de fan. Et comme je les ai rencontrés alors qu'ils étaient en vacances et moi aussi, c'est devenu mes potes. Et ça, je crois que ça m'a permis de comprendre la notion du temps. En se disant, parfois, il y a des échecs qui sont utiles. Et en fait, quand quelque chose doit arriver, in fine, ça se concrétise d'une façon parfois un peu curieuse, mais ça m'a permis une sorte d'humilité face à la vie et peut-être d'humilité face à l'échec, d'acceptation de l'échec, même si, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, mon ego en avait pris un coup, en fait, parce que j'avais dit à tout le monde, c'est bon, je vais les rencontrer. Donc, en plus, quand on a de l'échec, généralement, alors, il y a évidemment des sujets que tu as évoqués, comme peut-être les divorces ou des échecs beaucoup plus violents. Mais moi, à l'époque, j'avais raconté à tout le monde que j'allais rencontrer mon groupe préféré. Ça m'avait vraiment, vraiment heurté, en fait. J'avais pas été capable de le faire. Il avait fallu le dire à tout le monde. Donc, tu vois, t'en prends un petit coup. Ton ego en prend un petit coup. Et in fine, quelques mois après, c'est devenu mes potes. Donc, un truc absolument incroyable. Hein. Ça sent que c'était des rockstars aux yeux, dans d'autres pays. Et là, je pense que ça m'a planté les graines finalement de l'optimisme, peut-être de la résilience aussi. Alors, c'était pas un mot qui était connu à l'époque, mais ça m'a permis de comprendre, d'avoir une autre approche du temps, en train de me dire, aujourd'hui, ça marche pas, je suis déçue, mon ego parle, mais peut-être que dans quelques mois, en fait, je comprendrai pourquoi ceci est arrivé. Alors, bon, c'est une vision, hein, j'imagine, de l'échec qui a été partagé sur ton podcast déjà quelques fois, d'ailleurs, mais qui m'a permis une prise de recul par rapport au temps.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent quand on parle d'échecs, les gens s'imaginent toujours justement des catastrophes absolument ultimes, et en réalité, ou alors ce que tu as vécu là, j'en ai parlé avec d'autres, notamment Caroline Mignot, qui parle parfois de micro-échecs. En fait, il n'y a pas vraiment de d'échelle, moi je trouve, dans l'échec, parce qu'en fait c'est une perception qu'on a, c'est au niveau vraiment, c'est émotionnel, et ce que tu apportes du coup là comme vision avec la notion d'âge aussi qui rentre là-dedans forcément, en fait c'est très logique. Tu parlais justement que ça a été un peu les premières graines de l'optimisme et de la résilience. C'est quoi pour toi, justement, qui est un peu une spécialiste là-dessus, c'est quoi pour toi la résilience, justement, Catherine?
C'est notre capacité à accepter ce qui arrive en se disant qu'on peut agir pour le futur. Ça serait ma vraie définition de la résilience. Cette notion de, il y a des choses en fait qu'on peut pas changer, tu vois. Pour reboucler un peu en arrière, moi je viens du domaine du développement durable, donc je viens dans et je suis diplômée dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je suis diplômée d'abord en physique chimie, puis en management de l'environnement des collectivités, des entreprises. Donc à une époque où personne s'en parlait, n'en parlait, c'était pas du tout à la mode. Faut quand même être clair. Et en fait, la résilience aurait pu, enfin, on pourrait se dire que c'est accepter les changements, enfin d'aller un peu droit dans le mur. On pourrait se dire que c'est ça la résilience en se disant bon bah voilà, de toute façon ça va pas aller s'améliorer. Pour moi, la résilience c'est accepter qu'en fait il y ait in fine des transformations. Par contre, il y a quelque chose de volontaire en fait. Il y a quelque chose de volontaire dans le fait de continuer à agir. Tout à l'heure, je donnais cet exemple avec ce fameux groupe de musique. Finalement, j'ai continué à voyager, tu vois, j'ai continué à agir. Et c'est ça qui a permis un succès. Et pour moi, c'est ça la résilience. C'est une sorte d'acceptation de lâcher prise sur ce pourquoi je ne peux pas avoir de prise. Et par contre, de mettre des actions là où je peux en avoir. Mais une action, ça va être le simple fait de sourire à quelqu'un dans la rue où je me dis tu peux changer la vie de quelqu'un. En fait, le simple fait de voilà de dire bonjour à quelqu'un ou de lui sourire. Et voilà, il y a toujours résilience et action. Pour moi, c'est une sorte de bon binôme. La résilience face à la maladie, comme tu as pu interviewer aussi sur ton podcast, il y a une sorte d'action. Résilience, action, je trouve ça intéressant comme concept. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà parlé.
Je suis vraiment d'accord avec toi parce que du coup, souvent ce que je donne aussi dans les conférences ou dans les écoles où je vais, et pour moi c'est très lié, c'est le côté, il faut que je reste en mouvement en fait. Je ne peux pas rester statique en fait face à ça. C'est aussi ça la résilience, c'est de se dire, aussi infime que soient mes actions, il faut que je continue parce que rester en boule, pleurer et attendre, ça n'a jamais amené quelque chose de bien nécessairement.
C'est ça, un jour j'avais essayé de faire un diagramme sur LinkedIn, tu sais, j'avais mis l'optimisme, ça nous permet d'agir et c'est le fait d'agir qui nous rend optimiste en fait.
C'est un trigger.
Exactement, parce qu'on sait qu'on a prise sur quelque chose et souvent quand tu sais quand évidemment mon sujet c'est l'optimisme, souvent j'explique que enfin le mot antinomique de optimisme, c'est pas pessimisme, c'est inaction in fine. Tu vois, parce que de l'optimisme, c'est le prérequis à toute action. Et c'est la même chose quand tu vis un échec. Alors, l'optimisme, il est toujours post-échec, en réalité. Si on est très honnête avec nous-mêmes, mais nos journées sont bardées d'échecs. Oui.
La vie, c'est que des emmerdes, hein, si tu le prends dans un sens, hein, c'est clair.
Bien sûr, et puis clairement, Enzo, Catherine doivent travailler. Enzo, Catherine ne vivent pas à la mer en permanence. Tu vois, en fait, si on peut voir sa vie sous un prisme ou sous un autre prisme. Non, moi, je peux te dire que ma journée, déjà, elle a commencé, j'ai dû me réveiller et sortir de mon lit. Tu vois ? Et donc, soit tu te dis que c'est cool parce que tu vas mener une journée engagée avec des actions, soit tu te dis que c'est relou parce que tu as des cernes et qu'il te faudrait quand même un peu plus de sommeil. Donc, en fait, la réalité, c'est que l'échec, il est partout, tout le temps, mais tout autant que la réussite, elle est partout, tout le temps, parce que l'échec, c'est d'avoir dû me lever, mais la réussite, c'est d'avoir réussi à me lever. Voilà.
Je suis entièrement d'accord. C'est le fait de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. C'est selon ta perception, encore une fois. Et toi, du coup, pour faire preuve justement d'optimisme, parce que en fait, on le sent. Je pense que les gens, du coup, l'entendent. Et moi, du coup, je le vois aussi. T'es hyper dynamique, hyper souriante, hyper solaire. Comment est-ce que tu fais pour justement garder, en fait, parce que est-ce que l'optimisme, c'est quelque chose pour toi qui est inné, qu'on a tous en nous? Enfin, est-ce qu'il y en a qui en ont plus? Et est-ce que justement, ça peut se travailler au quotidien l'optimisme? Et si oui, comment?
Alors, moi, je suis pas du tout une optimiste de nature. D'ailleurs, quand mes potes sont plutôt des collapsologues, persuadés, forcément. Enfin, quand je viens du domaine de la RSE, du développement durable. Enfin, quand tu potasses les rapports du GIEC depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai envie de te dire que mes copains sont pas la joie de vivre incarnée, forcément. Par contre, moi, à un moment donné, je me suis dit que ça allait pas le faire. En fait, c'est-à-dire que si j'avais plus de lueur d'espoir, en fait, si j'avais plus de capacité de rebond, j'allais m'éteindre. Tout simplement, j'allais rentrer dans une forme d'éco-anxiété. Tu évoquais le fait que tu donnes des conférences, notamment auprès des jeunes. Moi, je me dis quelle chance j'ai eu d'avoir quand même un côté un peu insouciant que les jeunes, peut-être aujourd'hui, n'ont pas. Et en fait, l'optimisme, ça a été une sorte de levier qui m'a permis, in fine, de peut-être de survivre et d'avoir envie de construire des choses quand, au bout d'une... J'ai bossé une dizaine d'années dans le domaine du développement durable, 8 ans. À un moment donné, je me disais que j'allais baisser les bras en me disant « Personne ne comprend l'enjeu, en fait. » Tu vois, il y avait une sorte de « J'en ai ras-le-bol, en fait. » Tu vois, on parlait d'échecs. Finalement, peut-être que de m'être dit « Je suis partie dans un sujet auquel je croyais, en fait, mais j'étais pas du tout écolo. Hein. » C'était, pour moi, du pur bon sens, en fait. Il allait falloir que tous nos systèmes soient revus dans une vision holistique de la société, en fait. Donc, c'était pas du tout... c'était pas de la conviction écologiste, c'était du bon sens. Et je me disais, mais attends, notre société perd le bon sens. Donc, j'ai déposé les armes, mais en déposant les armes sur la RSE et le développement durable, finalement, je les ai prises pour parler d'optimisme, en me disant, l'enjeu, ça va être d'enthousiasmer, parce que sinon, si on n'est que dans de la « attention, c'est la fin du monde », t'es dans une situation de sidération, tu ne fais rien, tu n'avances pas. Donc, l'optimisme, pour moi, était un levier. Tu m'as posé la question de comment je reste optimiste. J'ai envie de dire, en écoutant des podcasts comme le tien, en rencontrant des gens comme toi, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis complètement biaisée. Je rencontre que des gens incroyables qui agissent, qui font leur part. Enfin, tu vois, toi, ton sujet, c'est l'échec, pour aller expliquer que c'est pas, que l'échec est partie intégrante de la vie. Et en rencontrant tout un tas d'acteurs sur tout un tas de sujets qui font quelque chose et qui, moi, me font dire, mais en fait, le monde va pas si mal. Oui, le monde va mal sur plein de points, sociétalement, climatiquement, sur le point de vue de la guerre en ce moment et autres. Mais la réalité, c'est que les individus, en fait, souvent, moi, j'explique que je suis très pessimiste des systèmes et très optimiste des gens, en fait. Parce que je rencontre partout des gens incroyables. Enfin, je prends le chauffeur me raconte sa vie, il est incroyable. Et la réalité, c'est que quand tu t'intéresses aux autres, les autres sont absolument fantastiques. Mais il faut s'intéresser aux autres.
Ouais, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser, moi je suis un très très grand fan de Louis de Funès depuis que je suis petit, et Louis de Funès avait une phrase qui disait « Je suis pessimiste, voyez-vous, ce qui fait que j'ai souvent de belles surprises. »
C'est joli.
Et du coup, c'est bon, il est magnifique de toute façon cet homme. On parlait du coup du fait qu'il fallait rester tout le temps dans l'action et de la notion, comme tu disais, de partage et de rencontre surtout, en fait. Toi, ce que tu dis, c'est que l'optimisme, c'est ça, c'est donc de ne jamais s'arrêter et surtout de rencontrer des personnes qui vont t'abreuver, en fait, de toutes ces bonnes ondes et toutes ces sources et qui vont en fait te nourrir.
Ouais.
C'est un peu ça.
Alors complètement. Alors je dirais pas de ne pas m'arrêter parce que tout le monde me dit de parfois faire pause. Je pense qu'on a à peu près la même personnalité et que je suis plutôt dans le mode hyperactive et donc je me rends bien compte que la pause est importante en fait. Et il y a des moments où tout simplement ça va pas. Hein. Je veux surtout pas faire d'injonction à l'optimisme. Moi j'ai vécu j'ai vécu par exemple, on parlait d'échecs, j'ai vécu 2 mois un peu à vide sur le début de l'année, venu de nulle part. Rien d'objectif en fait, parce que c'est aussi ça parfois l'échec, c'est de se dire pourquoi je me sens pas bien et d'essayer de comprendre, et finalement il n'y a pas de raison objective, juste parfois de la fatigue, juste des choses comme ça. Donc oui, la pause, c'est pas d'être tout le temps à fond, par contre d'être toujours, de faire très attention à ces algorithmes, à la fois à ces algorithmes digitaux mais aussi à ces algorithmes sociaux. En fait, je me suis rendu compte que on parle de l'échec, mais il y a aussi la vision que les autres peuvent avoir de nos échecs. Je suis entourée, par exemple, d'entrepreneurs, entre autres, hein, mais pas que, mais ou de patrons de PME ou d'intrapreneurs ou de copains musiciens. Enfin, tu vois, de tout un tas de gens comme ça qui jamais vont aller me juger. En fait, qui vont jamais aller me juger sur ma réussite professionnelle ou sur ma réussite personnelle. Et donc, je pense qu'il faut être très très vigilant à notre entourage. Et surtout, ne pas rester avec des gens qui vont te dire « Mais regarde, c'est complètement nul, regarde, tu ne sais rien faire. » Enfin, parce que tout à l'heure, on parlait de la notion de résilience, mais il y a aussi la notion de résistance face à l'échec, en fait. Et de fait, je suis convaincue que l'entourage joue beaucoup et au-delà de ça, de se rendre compte que c'est possible. On est en train un peu peut-être de fantasmer l'entrepreneuriat en France en se disant, tu sais, tu fantasmes les gens qui ont 10 ans d'entrepreneuriat dans les pattes. Oui, forcément, moi, au bout de 6 ans, je fais beaucoup plus de choses que j'en faisais la première année. Et puis, du coup, t'as une sorte de comparaison et tu te dis, mais attends, je suis nulle comparée à elle. J'ai 6 ans.
Tu prends l'année 10 pour une année 0, donc
exactement,
c'est sûr.
Exactement. Et puis, forcément, en 6 ans, tu rencontres beaucoup de gens. Et donc, il y a ça aussi. Et c'est pour ça que je reviens à cette notion du temps qui me paraît fondamentale. C'est de se dire que j'en suis là aujourd'hui. Peut-être que je vis un échec, mais dans 5 ans, je me dirais peut-être que cet échec a été nécessaire. Et ça, c'est vraiment l'humilité face au temps. Par contre, avec un impact très important de l'entourage, je pense.
Ouais, je comprends. L'entourage, j'en parle pareil systématiquement dans toutes les confs que je donne. C'est primordial. Comment est-ce que toi, du coup... Comment tu t'es construit justement cet entourage? Ça a été principalement du coup lié au travail justement? T'as encore gardé quand même beaucoup d'amis de justement quand t'étais jeune, année lycée, etc. Et est-ce que tu conseilles aussi, enfin moi c'est ce que je conseille beaucoup en modestement en conférence, c'est de se dire toutes les ondes justement négatives que vous avez autour de vous, même si parfois c'est très dur parce que ça peut être des amis de longue date ou parfois de la famille, il faut pouvoir s'en couper, ou en c'est tout cas vrai. Peut-être réduire beaucoup les interactions, ce qui est très
c'est
dur.
C'est terrible parce que ça a un côté très culpabilisant, tu vois, et c'est vrai que moi je suis plutôt très fidèle, globalement, et j'ai des copains depuis la maternelle. Donc, tu vois, j'ai des copains de très, très, très longue date. Et quand je me suis finalement alignée avec moi-même, c'est-à-dire que du jour où j'ai lancé l'optimisme, je viens d'un milieu très scientifique. Donc, tu vois, enfin, tout le monde fallait faire S, mention maths, je suis entourée d'ingénieurs très, très carrés. Et je me sentais un peu là, presque la perchée du système, tu vois. Je me posais des grandes questions. En plus, moi, j'ai fait de la physique quantique au démarrage. Donc, tu vois, je me pose beaucoup de questions philosophiques, psychologiques. Je m'intéresse à l'humain dans sa globalité. Je m'intéressais beaucoup au système quand j'étais entourée de gens qui s'intéressaient en micro. Et il faut toujours des deux, tu vois. Moi, j'étais plutôt macro, d'autres plutôt micro. Penser en arborescence versus pensée linéaire. Donc, je me sentais un peu différente. Et du jour où j'ai décidé de me lancer dans ce qui me plaisait, je me suis mise à rencontrer tout un tas de gens avec qui ça résonnait et des gens que je connaissais pas, avec qui j'ai été capable de refaire le monde où on s'apportait énormément parce qu'il n'y avait pas de faux semblants, parce que j'avais enlevé mon masque et autres. Et là, ça, j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé parce que finalement, je me rendais compte que je préférais rencontrer presque des gens que je connaissais pas, qui sont finalement devenus mes amis avec le temps, quand j'allais à des soirées où je me sentais extérieure à ces dîners. Alors, je sais pas si tu l'as peut-être déjà évoqué dans un autre podcast, mais tu sais, cette sensation d'être là et de sortir un peu du décor en te demandant qu'est-ce que je fais là sur des sujets qui, moi, n'étaient pas du tout sociétaux et plutôt des sujets, on va dire, narrow-minded, tu sais, très... ce qu'on appelle en anglais, je sais pas comment on dit en français, mais des small talks, tu vois, trucs où on va critiquer la voisine, et je me disais, mais moi, c'est pas du tout ça. Et finalement, je sortais de ces dîners avec des niveaux d'énergie beaucoup plus bas que je n'y étais allée quand il y avait des gens que je connaissais pas, mais je le sentais, tu sais. Tu sais, enfin, sincèrement, Enzo, on passe une soirée ensemble, je suis sûre que, tu vois, on va papoter pendant des heures, il n'y a pas de faux semblants, tu le sens, en fait, tu vois, et tu le sais pas. Et c'est très culpabilisant parce que, à un moment donné, tu te dis que tu deviens la différente, tu te questionnes, t'as une notion d'échec, du coup, là-dessus, en te disant, mais est-ce que j'aime plus les gens? Est-ce que c'est moi qui ai changé? Parce qu'on te dit ça aussi, généralement, t'as changé et autres. Et comme généralement, ça correspond à des passages de vie où finalement tu te révèles, tu peux avoir cette sorte de culpabilité. Mais moi, j'en suis convaincue. Et comme tu dis, c'est très dur parce que c'est des gens qui t'aiment, qui, eux, généralement, bougent pas. Donc, en fait, ils voient que toi, tu t'en vas, mais que eux, restent comme ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup... Et surtout quand tu es dans des groupes de potes, tu vois. Mais par contre, il y a quelque chose qui est toujours resté. C'est ceux qui comptent, les vrais de vrais, j'ai presque envie de te dire. J'ai entendu hier quelqu'un qui disait, je crois que c'est Montaigne qui dit ça, qui était très copain avec la Boétie, qui disait, en fait, on ne peut avoir qu'un ami dans la vie. Parce que si cet ami, si tu en as plusieurs, va falloir que tu fasses un choix s'il te sollicite en même temps. Alors moi, parce qu'ils étaient, je crois, fusionnels, Montaigne et la Boétie. Mais pour moi, c'est pas ça, en fait. Pour moi, il y a les gens qui résonnent avec toi. Tu sais, tu te comprends, en fait. Et à la limite, peu importe si tu te vois toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tous les 10 ans. Tu vois, il y a quelque chose d'énergie. Je sais pas comment le dire autrement, mais et c'est ça, en fait, sur lesquels il faut qu'on capitalise, parce que c'est, moi, je crois beaucoup à cette notion d'énergie, surtout quand tu vas pas bien, en fait, hein, et quand tu vis un échec, généralement, je parlais, tu viens frustrer un peu ton ego, donc tu vas pas bien. Donc si en plus t'as des gens où à la fin de la soirée tu te dis, mais de quoi j'ai parlé, est-ce que ça m'intéressait, est-ce que j'ai appris quelque chose, si en plus tu flingues tes soirées, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux.
Ouais, j'allais te le dire, du coup, c'est totalement en rapport avec ce que tu dis, c'est que c'est le temps qui va faire le tri aussi, justement, un peu dans cet entourage-là. Alors, bien sûr, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Moi, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, le Covid. Alors, il y a eu évidemment beaucoup de choses très négatives, mais il y a eu un truc positif, moi, dont je ressors, c'est ça a littéralement rétréci les cercles qu'on avait. Parce que tout ce qui était mondanité, justement, etc., ou des gens que tu croisais de temps en temps, sans forcément avoir plus d'affinité, bah en fait, tu n'avais plus besoin de les voir, tu ne pouvais plus les voir en tous les cas, et tu te recentrais vraiment sur quel est mon noyau, quoi. C'est quoi les personnes que j'ai vraiment envie de voir et où je prends la peine maintenant, quoi. Ça a été un peu...
Exactement, et tu vois, moi, je suis plutôt une introvertie de nature. Alors, ça ne se voit pas...
Ça ne s'entend pas.
Ça ne s'entend pas, mais j'ai besoin de solitude. Et c'est vrai que le Covid, ça m'a donné le fait de ne pas trouver de faux prétextes. C'est-à-dire que je n'étais pas obligée d'aller justement dans ces mondanités. Après, les mondanités, parfois, nous font avoir des bonnes surprises. Et puis, par contre, pareil, tu as des sortes d'amitiés fulgurantes aussi. Alors... On appelle ça amitié ou pas, ou des expériences d'amitié qui durent un temps. Mais moi, j'y crois beaucoup, en fait, à ces notions de tout d'un coup, tu vas échanger pendant des mois avec quelqu'un, et puis peut-être que ça va s'arrêter ou que ça va continuer pendant des années, mais il y a quelque chose de solide qui a été créé, loin du jugement. Et c'est vrai que le Covid, par exemple, moi, dans ma boîte, on a adoré finalement cette période parce que ça nous a vachement, comme tu dis, solidifié parce qu'il y avait un terreau qui était sain. Et ça dépend des uns et des autres. Mais moi, je crois beaucoup à ces histoires de rencontres. En fait. C'est quelque chose qui est fondamental dans la vie. Par contre, tu vois, tout à l'heure, je parlais du temps. En fait, il faut se dire que le temps, c'est la seule donnée qu'on n'est pas capable de créer. Finalement, créer des sous, on pourra en recréer, créer des expériences. Il y a plein de choses qu'on peut créer, mais le temps, finalement, c'est notre seule donnée limitée. Et à un moment donné, quand j'ai dû me dire « Non, je suis fatiguée, il faut mieux que je reste à la maison, à bouquiner toute seule, caler à des soirées », c'est dur. En fait, au démarrage, tu te dis, tu te demandes si tu vas mourir toute seule sur un lit, que personne ne viendra à ton enterrement, tu vois, quand tu commences à faire ça. Mais c'est quelque chose qui était, qui est nécessaire et qui aussi, ça fait partie de se connaître, en fait.
Ouais, ça me fait penser là, j'ai une question pour toi. Est-ce que justement, avec toutes ces belles rencontres que tu as fait tout au long du coup de ta vie, est-ce que justement, il y en a, alors ça va être très très dur, je sais, elle est horrible cette question, est-ce qu'il y en a une vraiment, tu l'as vu venir de toute façon ma question, est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment marqué ou en tout cas pareil, qui a symbolisé à un moment donné un changement, ouais. Ça a peut-être drastiquement boosté ta carrière derrière, ouais. Et comment ça s'est fait?
Ouais. Alors, et c'est marrant parce que pour le coup, moi, sur tout le pan, j'ai rencontré des patrons des grandes multinationales comme des artistes très connus. Mais la réalité, la rencontre qui a le plus changé ma vie, c'est un mec que je connaissais pas, en fait, au tout démarrage de l'optimisme. Tu vois, en fait, j'osais pas raconter mon projet. Je me disais, tout le monde va penser que j'ai pété un plomb. Et je l'avais mis sur un groupe Facebook. Et là, il y a un mec qui me dit, bonjour, Catherine, j'adore votre concept, rencontrons-nous. Moi, je m'étais dit dans ma tête, il faut que je rencontre les gens qui vont être mes futurs lecteurs. Je suis pas du tout de cette nature. À l'époque, j'étais vraiment pas du tout de cette nature d'aller rencontrer des gens nouveaux. Tu vois, c'était hors zone de confort. Je me dis, je vais le faire, ça va me donner un benchmark, tu vois, de qui va être mes futurs lecteurs. Et en fait, ce mec, il était, je pense qu'il écoutera pas mon podcast, c'est devenu un super pote aujourd'hui. Hein. Mais il arrive et là, il m'explique qu'il bosse dans une grande industrie, qu'il a vécu en Chine, en Inde, qu'il a toujours pensé que l'optimisme était le prérequis en fait à toute action. Et ça a été la première personne qui a compris mon projet, en fait. Et en fait, cette personne-là qui finalement m'avait proposé de me rencontrer, mais il a forcé, hein, tu vois, c'était vraiment moi au démarrage j'avais laissé un peu de côté, puis il est revenu, puis il m'a dit tiens, j'arrive, j'habite du côté des Batignolles, je suis du côté des Batignolles des Genoux, tu vois, il m'avait un peu prise au piège et en fait il m'a donné ce go go go, vas-y avance en fait, et il a compris ce je pense qui j'étais, ce que je voulais faire, quand finalement mes potes ne comprenaient pas forcément, quand ma famille, tu vois, c'était pas la même chose, c'était un regard très extérieur. Et franchement, sans lui, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui, en fait.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et ça, pareil, on le dit souvent, c'est qu'à un moment donné, il faut aller chercher justement ces avis-là au-delà de son cercle, au-delà de ce qu'on connaît, parce que les gens qui nous connaissent par cœur, justement, vont avoir peut-être aussi un jugement, entre guillemets, une perception en tout cas un peu biaisée, parce qu'en fait, ils nous connaissent tellement qu'ils pensent vraiment nous connaître par cœur, et en fait, ils ne savent pas du tout dans quel état d'esprit t'es et ta vision à toi. Et parfois, ils ne se rendent pas compte, alors que bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est des gens qui sont aimants envers toi, mais ils vont avoir un effet inverse, ils vont avoir un effet parfois castrateur. De peur que tu n'y arrives pas et donc ils te freinent, alors qu'en allant chercher loin.
Et l'avantage aussi, c'est que quand tu sens que ça résonne avec quelqu'un, tu peux te permettre d'être la personne que tu as vraiment envie d'être. Qu'avec mes potes d'avant, avec mes potes que j'ai rencontrés sur tout mon cycle de vie avant, j'étais une version qui a... Kat, elle bosse dans le développement durable. Tu vois, c'était vraiment ça. Et c'était mon passé, en fait. Et quand il y a une notion de réinvention, en fait, et ben finalement, qu'il y ait des nouvelles personnes qui te connaissent que sur ce nouveau prisme, est hyper intéressant. Après, il faut remettre, reboucler les deux pour pas devenir complètement, être complètement dissocié, avoir 10 personnalités. Mais clairement, ouais. Et tu vois, c'est une rencontre complètement anodine, parce que je pourrais te citer, parce qu'à un moment donné, tu vois, avec l'optimisme, j'ai fini par rencontrer les gens qu'un jour j'ai lus. Tu vois, c'est hyper bizarre. Les chanteurs que j'ai un jour écoutés. Donc, tu vois, tu pourrais dire que c'est ça qui est incroyable. Mais non, la réalité, c'est que ces gens-là, tu te dis, bon, c'est cool, mais il y a ceux qui changent vraiment ta vie sans même s'en rendre compte, en vrai. Tu vois, lui, il trouvait ça juste rigolo que quelqu'un ait envie de parler de ce qui va bien.
Écoute, c'est pas mal. J'ai une dernière petite question, Catherine, pour qu'on boucle cette interview et qu'on passe après aux questions pour la mention. Qu'est-ce que tu pourrais donner si tu avais 2-3 conseils à donner à des gens justement qui vivent ces notions d'échec ou de micro-échec dans leur quotidien? Qu'est-ce que tu leur conseillerais du coup de faire en priorité?
Alors déjà, de revoir la copie, c'est-à-dire que tu vois, je vais donner cette histoire de quand j'ai lancé l'optimisme, en fait, autant te dire, j'avais zéro bille dans les médias, plutôt introvertie, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu en France en plus, parce que j'ai vécu dans différents pays, mais j'avais zéro réseau en France et zéro envie d'avoir un réseau en France en plus, tu vois, je me rendais pas compte de ce que c'était. Et en fait, au lieu de dire que j'allais créer l'optimisme, j'ai dit que j'allais essayer de voir si en France, il y avait de la place pour parler d'optimisme. Et en fait, ça m'a permis de switcher en me disant, tu vois, cette simple différence de je vais devenir artiste ou je regarde si j'ai la capacité d'être artiste, en fait, ça permet de valider, en fait, de ne jamais avoir d'échec, parce que tu valides une hypothèse ou tu l'invalides. Et ça permet, je crois, de décaler cette notion d'échec en se disant, non, j'ai pas envie, finalement, ça me saoule de vendre mes œuvres parce que je préfère, je préfère la notion de plaisir, je déteste le marketing, tu vois. Et d'aller dire aux autres, non, j'ai essayé de regarder si j'avais envie de devenir artiste, finalement, c'est pas fait pour moi, mais il y a une notion de, il n'y a plus d'échec dans ces cas-là. Tu vois, tu valides ou t'invalides une hypothèse. Donc, pour moi, décaler le regard, ça serait vraiment un des grands conseils que je donnerais à tous en se disant, vous avez validé le fait que ça ne vous intéressait pas, finalement, de le faire, ou que vous n'étiez pas capable de le faire. Donc, tu vois, c'est toujours décentrer le regard. Ça serait vraiment, je crois, mon plus grand conseil et le plus grand hack que j'ai pu que j'ai pu faire, et même encore aujourd'hui, tu vois, quand t'as une boîte, t'essaies différents types de projets régulièrement, je dis à mon comptable, je regarde si ça va plaire ou si ça va pas plaire, tu vois, et après ça plaît pas, peu importe, en fait il y a pas d'échec, j'ai validé des scénarios, tu vois, et c'est vrai que ça vient aussi de la physique quantique, tu sais, on te dit que tout est tous les scénarios existent en parallèle et que finalement tu vas te pencher sur un ou l'autre scénario. J'aime bien cette notion de probabilité, en fait, tu vois, je trouve ça intéressant.
C'est plus doux, c'est sûr. Ouais.
Et j'ai un copain qui me disait...
La chute fait moins mal.
J'ai un copain qui me disait, je prends cette voie et je me dis peut-être que dans un monde parallèle, je prends l'autre voie. <C'est-à-dire que rire> ça marrant comme réflexion, mais du coup, ça me reste aussi. En me disant, c'est vrai que tu peux aussi voir les choses comme ça. Tu peux te dire que tout existe en parallèle, dans de l'infini des probabilités, que peut-être que là, tu es en train de vivre ça et que tu es dans un monde parallèle, tu es sur une autre voie. Tu vois, je trouve ça marrant, ça. Voilà, c'est un peu philosophique et autre.
Pour tous les grands fans de Marvel, les derniers Avengers, ça part un peu en vrille comme ça, justement, avec plein de scénarios qui partent, avec des...
Tu vois?
des trucs comme ça. Ok. Écoute Catherine, top. Bah écoute, merci beaucoup pour tout cet optimisme que tu partages. Et j'ai encore des petites questions. On finit avec les questions pour la mention. Et j'ai trois questions du coup pour toi Catherine. La première c'est, quelles sont pour toi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie?
L'émerveillement, la capacité à s'émerveiller, la curiosité et peut-être l'humour.
Ah sympa, j'ai cru que t'allais dire l'optimisme.
Ah
mais
non,
du
même
coup
pas.
L'humour est très cool.
Même pas, non je dirais... Tu vois, régulièrement, je vais voir des spectacles de comiques. Tu sais, à un moment donné, c'est aussi ça, en fait. En fait, c'est se diriger, en fait, vers ce qui nous fait du bien. Finalement, rire, tu peux pas faire deux choses. Quand tu rigoles, tu ne peux faire que rigoler, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais je suis pas très drôle
cool.
À la base. Hein, mais voilà.
Alors, émerveillement, curiosité, humour. C'est très cool. Première fois qu'on sort du coup ces trois-là. La prochaine question, Catherine. Est-ce que justement, il y a un livre, une série, un film, un spectacle d'humoriste, quelque chose que tu aimerais partager, qui t'a marqué, que t'as adoré? Peu importe lequel.
Alors, à mon avis, tu dois avoir X personnes qui t'ont dit l'alchimiste ou des choses comme ça. Moi, je suis une grosse lectrice, donc c'est un peu compliqué. J'irais citer Le Prophète. Je ne sais pas si tu connais, c'est de Gibran. Hyper intéressant, petit bouquin qui vaut 5 balles, qui va te déconstruire tous les sujets de société. Donc, il va te déconstruire l'habitat, la rencontre, l'amour. Hyper intéressant, c'est des petits textes qui font à chaque fois une page. Pour tous ceux qui n'aiment pas lire, je trouve ça très intéressant. Après, il y a tout un tas d'autres livres qui sont passionnant qu'est-ce que Interstellar j'aime bien en termes de film bon pareil hein, ça vient chercher la notion du temps et du parallèle en termes de livres il y en a plein Apprendre au 21e siècle sur à quel point de François Taddeï à quel point il dit que t'as des enfants par exemple ils vont réussir ou ne pas réussir en fonction de ce qu'on leur a dit avant sans réseau objectif. C'est hyper intéressant de se rendre compte de ça, en fait.
Ouais.
Donc, c'est vraiment vers quoi nous pousse l'éducation. Tout à l'heure, tu me disais l'optimisme, mais quand tu as grandi dans une famille où on t'a dit que tu étais capable de tout faire, bah forcément, tu as moins peur de l'échec parce que tu sais que de toute façon, tu peux tout faire. Donc, tu vois, c'est aussi cette reconstruction. Mm-hmm. J'aime beaucoup, après, plein de choses sur l'intelligence collective, Émile Servan-Schreiber sur Super Collectif, où on t'explique qu'ensemble, on est plus intelligent que tout seul. En fait, tu vois, je trouve que ça te donne une énorme notion d'humilité en te disant, bah, moi, je suis une petite chose dans un grand univers. Par contre, je suis utile parce que c'est ma différence qui me permet de contribuer au collectif. Donc, là, après, c'est plein de sujets, mais je dirais Gibran, peut-être. Éventuellement l'alchimiste pour ceux qui l'ont pas lu, mais ça, à mon avis tu l'as déjà eu plusieurs fois dans l'alchimiste en termes de sujet.
Eh ben non, je ne l'ai pas eu encore. Non,
alors
non,
l'alchimiste
non.
De Coelho et le prophète de Gibran.
Ok, c'est noté Catherine. Dernière petite question, c'est quoi ton prochain objectif?
C'est très marrant ça tout. En fait, ça s'oppose à ma personnalité d'avoir des objectifs. C'est ça qui est très curieux, c'est que je me dis que si je mets un objectif, ça veut dire que je laisse pas toutes les possibilités arriver parce que je vais me concentrer sur un objectif et je vais avoir moins je vais avoir des œillères sur les opportunités parce que je vais croire que mon objectif est le bon. La réalité, c'est que, tu vois, je suis auteur. Si on m'avait demandé, si je m'étais mis un objectif, jamais j'aurais mis le fait d'écrire des bouquins, tu vois. J'aurais même pas envisagé que c'est possible. Et en fait, mettre des objectifs, souvent, je me dis que c'est perdre l'infini des possibles et ça nous fait aller dans un monde linéaire. C'est-à-dire que tu vas dans une ligne. Du coup, moi, j'ai pas vraiment d'objectif à proprement parler. J'espère que ma boîte va continuer, que je vais continuer à m'éclater. Et par contre, j'ai plutôt un objectif de joie, en fait. Quelqu'un dans mon équipe m'avait demandé ça il y a 3-4 ans, 3 ans, un peu avant le Covid, un an avant le Covid, en me disant comment tu nous vois dans un an, ce qui est très très difficile comme question pour moi, et je m'étais dit je sais pas mais j'espère que ça va être joyeux, en fait, tu vois, et se piloter finalement à la joie, je trouve ça assez intéressant, en se disant ça vient de un peu de l'anima, tu vois, ça vient des tripes, tu peux pas décider d'être joyeux, tu vois, tu l'es ou tu l'es pas, mais tu peux pas te dire ce matin je vais être joyeux, en fait, tu vois, Mais je sais que c'est important, en fait. À un moment donné, il faut savoir que quand je suis allée, quand j'ai fait mon bilan avec mon comptable, un jour, je lui ai dit, mais je pense que je peux tirer les cartes, ça sera la même chose que de te faire un tableau de prévision. Tu vois, ça lui a fait, tu sais, la petite goutte de sueur froide qui a perlé sur son visage. Mais c'est aussi ça qui peut être intéressant, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas une personnalité pour entreprendre, en fait.
C'est, ouais, bien sûr.
Ça me paraît assez important. Après, bon, il faut back-upper avec des gens qui sachent quand même le faire. J'ai toujours grandi dans des mentalités start-up, donc ça me permet aussi de, voilà, de pas être complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que cette notion d'objectif, pour moi, c'est presque me limiter, en fait. Et donc j'aime pas trop m'en mettre, et puis j'ai pas cette, c'est de l'humilité, ça reste de l'humilité face au temps, qui je suis pour dire ce qu'il doit en advenir de la vie. Alors bon, évidemment, peut-être que c'est moins vrai quand on est sportif, quand on a envie de se challenger, tu vois, on peut avoir envie de se challenger, moi sincèrement bon.
Et avoir, je sais pas ce que t'en penses, mais avoir entre guillemets un objectif en vue, mais se laisser du coup la possibilité coup d'emprunter des routes différentes, parce que comme tu l'as dit, tu peux avoir un objectif premier qui est de faire, je sais pas, du coup en tout cas de travailler du coup cette notion du coup d'optimisme pour toi, et puis d'un coup, bah du coup il y a cette notion de livre qui entre en jeu, et puis du coup en fait tu l'acceptes, mais pour autant ton objectif premier était différent, mais tu t'en étais quand même fixé un.
Exactement, c'est pour ça qu'en fait je crois bien plus à cette notion de à la fois de valeur et à la fois de mission de vie, en fait. C'est-à-dire que ma mission de vie, entre guillemets, ça serait transmettre un peu d'optimisme dans la société, et du coup ça va prendre différentes formes. Ça va être venir partager dans des podcasts comme le tien, ça va être à travers les livres, ça va être à travers les sites web, ça va être à travers les dessins, ça va être à travers des partenariats divers et variés, tu vois. En fait c'est plutôt d'avoir le pourquoi, en fait, le pourquoi en deux mots, et derrière le comment va s'agencer. Et c'est pour ça que cette notion, voilà, de je vais pas avoir un objectif que je vais piloter, je vais avoir une intention, et derrière après, bon bah voilà, et c'est tout bête, hein, mais d'avoir aussi l'intention, ça permet de prendre des décisions en se disant, bah est-ce que ça répond, est-ce que c'est une fausse bonne idée, est-ce que ça vient flatter mon ego, mais en fait c'est pas ça qu'il faut que je fasse, tu vois. Et ça permet aussi de piloter toutes ces décisions par rapport à la fois à ses valeurs et par rapport à ses objectifs. Mais moi l'objectif, presque envie de te dire, c'est de faire une révolution de la gentillesse à horizon 20 ans, tu vois. Donc voilà, je suis très à l'aise avec le temps et avec tous les déboires, avec tous les couacs qui peuvent surgir au fil du temps.
Eh ben écoute, c'est hyper intéressant tout ça, Catherine. Il me reste un dernier petit truc à te demander, c'est le petit rituel de fin dans Phoenix l'échec mention très bien. C'est, est-ce que tu peux nous résumer tout ce qu'on s'est dit depuis une grosse demi-heure maintenant, avec tous les couacs qu'on a eu malheureusement, mais nous résumer ça en une phrase, une grosse punchline de fin.
L'échec n'existe pas.
Ben voilà. C'est simple, efficace, simple,
là,
basique.
Non, alors je te la refais plutôt. L'échec est une vision d'esprit.
C'est très beau aussi.
Voilà.
Très bien.
L'échec est une vision de l'esprit.
Eh ben écoute, merci infiniment, Catherine, pour ce temps, pour ces belles paroles, pour tout cet optimisme que tu partages. Du coup, je pense que ça va résonner chez plus d'un. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Du coup, pour pas tes objectifs, du coup, mais pour continuer à être dans la joie. Exactement, c'est ça.
Et ne pas perdre notre enthousiasme. Je pense que c'est la pire chose qui peut arriver à une humanité, c'est de perdre son enthousiasme.
On valide fort. Merci beaucoup, Catherine. Passe une très belle journée. Ciao, ciao. Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec deux actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcasts, comme tu sais. Et la deuxième, c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment. Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn. Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.